Voici quelques mots d'introduction avant de commencer cette sieste sonore et littéraire. Je vous propose de vous installer dans un endroit calme et de vous allonger confortablement sur un tapis, le corps bien déposé sur le sol. Ressentez le contact avec le tapis, parcourez mentalement l'ensemble de votre corps. Sentez vos pieds se relâcher, dénouer les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, la nuque. Sentez peser votre corps sur le sol et posez maintenant votre attention sur le souffle. Je vous invite à prendre conscience de l'air qui entre en vous et qui en ressort. Simplement, sans chercher à contrôler cette respiration. Visualisez le souffle qui vous parcourt et observez les zones de votre corps qui respirent, qui se soulèvent et qui se rétractent légèrement à chaque inspiration et à chaque expiration. Votre corps est profondément amarré au sol. Laissez votre tête voyager. Errer. Et pourquoi pas écouter ces quelques lectures. Alfred de Musset est un jeune homme de 25 ans quand la Confession d'un enfant du siècle est publiée. Nous sommes alors en 1836. Musset et l'écrivaine George Sand vivent des amours tumultueuses, de Venise à Paris. Mais dans ce roman autobiographique, Musset s'inspire également de sa première passion amoureuse qui lui laissa un goût amer et lui donna la maladie du siècle, ce mal que semble avoir ressenti toute une génération. La génération romantique. J'ai à raconter à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table, à un grand souper, après une mascarade. Autour de moi, mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite, et à gauche, des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête, un orchestre bruyant. Et en face de moi, ma maîtresse. Créature superbe que j'idolâtrais. J'avais alors 19 ans. Je n'avais éprouvé aucun malheur, ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à mille facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous ceux qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors, sous la table, le pied de ma maîtresse, qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et il les resserrait doucement de temps en temps. Je me relevai, parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observai tous deux, tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes, ni dans leurs visages rien qui pût les trahir. À la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre et, m'étant baissée de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre. Goût décadent et excentrique, rejet de la modernité, le dandy Jean des Essintes est le héros, ou plutôt l'anti-héros, du roman de Karl Joris Suissemans, À rebours, publié en 1884. Jean des Essintes s'acquit la réputation d'un excentrique, qu'il paracheva en se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d'or froid, en plantant en guise de cravate un bouquet de parme dans l'échancrure décolletée d'une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, un entre autres, renouvelé du XVIIIe siècle, où pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison, subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin, maintenant bordé d'une margelle de basalte, et rempli d'encre, et ses massifs, tout disposés de cyprès et de pin, le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes, et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, on avait mangé dans des assiettes bordées de noir des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulet, les boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des raisinés, des mûres et des guignes. Bu dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des Ténédos, des Vals des Peñas et des Portos. Savouré, après le café et le brou de noix, des quois, des porteurs et des stouts. Le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte, était-il écrit sur les lettres d'invitation semblables à celles des enterrements.